Michel Poitevin est un grand collectionneur d'art contemporain devant l'éternel. Il fait partie du comité consultatif de la foire d'art contemporain Lille Art Fair, dont la seconde édition a lieu à Lille Grand Palais du 3 au 6 avril 2009. Michel Poitevin, bonjour.
Bonjour.
Cette foire va réunir à peu près 70 galeristes internationaux, ce me semble. Alors, Michel Poitevin, est-ce que la France aime l'art contemporain ?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, en 2009, la France aime l'art contemporain sous toutes ses formes, soit sous forme artistique, soit sous forme design, soit sous forme plus expressive. Mais je pense que le retard que l'on pensait avoir à la fin du XXe siècle s'est aujourd'hui estompé, et aujourd'hui, les Français aiment voir les choses qui sont créées à leur époque.
Alors justement, on parle de la France, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir des spécialistes de l'Allemagne avec nous. Alors je vais demander à Jérôme Vaillant et l'Allemagne.
L'Allemagne est très portée sur l'art contemporain. Deux exemples ou deux rappels, la Documenta d'une part, et puis une exposition galerie Art Cologne depuis des années, qui a fortement contribué au développement de l'intérêt des Allemands pour l'art contemporain, avec les réactions qu'on peut imaginer à la fois de scepticisme et d'admiration.
Alors Boris Grésillon, vous qui connaissez bien Berlin, l'art contemporain à Berlin, c'est quelque chose.
J'ajoute à ce que dit Jérôme Vaillant, évidemment Berlin, parce qu'il a cité la Documenta de Kassel, Cologne, donc la foire d'art contemporain de Cologne, et Berlin. Et Berlin qui est monté en puissance depuis une bonne dizaine d'années, voire en fait depuis le début des années 90, au point peut-être, dit-on en tout cas, de supplanter Cologne en termes d'implantation de galeries d'art contemporain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Berlin est devenu aujourd'hui une des places fortes de l'art contemporain en Europe.
Vous êtes d'accord, Michel Poitevin ?
Oui, tout à fait. Et quand on parle des deux foires qui existent, enfin, il y a plus que cela, mais qui sont connues au plan international, Art Cologne et Art Berlin, Berlin est aujourd'hui une foire beaucoup plus intéressante, beaucoup plus contemporaine, qui va vers des choses plus pointues que Art Cologne, qui reste quand même une foire très classique.
Très classique dans l'art contemporain, c'est assez amusant. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes grand collectionneur. Alors, comment on devient collectionneur ? Et pourquoi, finalement ?
Sans le vouloir.
Par hasard.
Le mot collectionneur est un mot que l'on utilise. Je ne l'aime pas tellement parce que ça fait quelqu'un qui amasse des choses. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas tout à fait ça. Non, c'est le problème de la passion. Et quand la passion, moi, m'a pris jeune, maintenant, au bout de 35 ans, eh bien, je commence à voir beaucoup de choses. Je suis à la fois heureux de les avoir, pas heureux d'avoir 35 ans derrière moi. Je préférerais en avoir 10, mais ça, c'est autre chose. Non, on devient collectionneur. J'aime bien une définition d'un ami qui dit « On est collectionneur quand on n'a plus de place pour accrocher les œuvres qu'on a acquises.
» Mais c'est pas mal, il faut les ranger autrement.
Il faut les ranger autrement.
Effectivement. Alors, que collectionnez-vous ?
Alors, moi,
des choses qui se rangent difficilement, d'ailleurs.
Oui, des choses... je ne sais pas si elles sont difficiles ou si elles sont faciles. En tout cas, elles ne sont pas classiques en tant que telles. J'ai peu de passion aujourd'hui pour la peinture et pour la peinture française. J'arrive pas à accrocher. Depuis Matisse, peut-être qu'après il y a eu quelques artistes qui sont intéressants. Mais aujourd'hui, ce qui se fait, ça ne me correspond pas. Et moi j'aime bien, ce sont les installations, ce sont des pièces plutôt volumineuses qui encombrent. Et puis aussi la vidéo, et on a la chance à Lille, plutôt à Tourcoing, d'avoir le Frénois, qui est une pépinière formidable pour la création de films et de vidéos.
Qu'est-ce qui vous décide à acheter ?
C'est compliqué. À la fois de jeunes artistes, parce qu'on essaye toujours de faire des lignes, de suivre des gens pendant une période assez longue, et donc de commencer le plus tôt possible avec eux, soit après de compléter des œuvres auprès d'artistes qu'on n'a pas pu acquérir au moment où ils ont créé la pièce.
C'est beaucoup le rapport aussi avec les artistes qui est intéressant.
Le rapport avec les artistes est intéressant, mais là il y a une querelle. C'est faut-il connaître les artistes avant d'acquérir une pièce ou après ? L'artiste peut influencer dans un sens ou dans un autre. Donc je préfère personnellement me faire une idée sur l'œuvre l'œuvre au sens de une pièce et plusieurs ou plusieurs plutôt que de connaître l'artiste, parce qu'après une amitié peut se faire et ça enlève l'objectivité dans l'intérêt.
C'est vrai que c'est difficile. Votre avis sur le marché de l'art en France aujourd'hui ?
Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend de partout, mais ça devient presque obsédant, ça fonctionne bien.
Mais il n'y a que ça qui fonctionne alors.
Peut-être pas. J'ai une entreprise, elle fonctionne. Hein, bon. Donc elle me permet...
D'ailleurs, ça permet de collectionner une entreprise qui fonctionne.
Exactement. Tout le monde a, depuis la FIAC du mois d'octobre, l'antise de la crise et de la difficulté. Pour l'instant, on vient de voir Art Paris il y a 2 semaines, et cette semaine, le Salon du Dessin. Et en gros, tout le monde est étonné de constater que il y a toujours des gens qui sont intéressés, il y a toujours des acquéreurs, et que globalement, ce n'est pas le marasme qu'on nous annonce.
Ça veut dire que la crise financière, pour l'instant, n'a pas encore d'impact sur le marché de l'art ?
Pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce que on va mieux le voir au plan international quand les ventes de New York vont avoir lieu au mois d'avril, les ventes de Christie's et de Sotheby's, on verra là si le marché s'écroule, s'il y a beaucoup de pièces qui sont invendues. Mais pour l'instant, en France, janvier, février et mars ont été globalement de bons mois pour les galeries parisiennes, celles que je connais, celles avec qui j'ai des liens importants.
Quel est le positionnement des jeunes artistes donc sur ce marché de l'art et des jeunes galeries ?
Eh bien, les jeunes artistes vendent cher, à mon avis.
Trop.
Hein? Je raconte toujours une anecdote assez simple. C'est que la première œuvre que j'ai acquise en 1972 représentait la moitié d'un mois de salaire, de mon salaire, hein, dans l'activité que j'avais. Aujourd'hui, j'emploie des collaborateurs qui font la même activité. Donc je connais leur salaire pour signer leur chèque à la fin de chaque mois. Ils ne peuvent pas acquérir avec la moitié de leur salaire une œuvre. Alors peut-être parce que je ne les paye pas assez, ça c'est une façon de voir. Mais je pense que, si c'était le cas, ils partiraient. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'art est devenu très cher.
Oui, et en tout cas, vous ne pourriez peut-être pas refaire ce même chemin.
Si, mais pas de la même façon. En commençant par autre chose, parce qu'on peut commencer par le dessin, par exemple. Au lieu d'acheter, moi, la première œuvre que j'ai acquise, c'était un tableau, la peinture.
Donc vous aimiez la peinture, alors, avant ?
Ah, j'ai aimé, bien sûr. Bien entendu. Je ne suis pas né en n'aimant pas la peinture. Je suis arrivé à l'art contemporain en regardant Picasso, Chirico et autres quand j'avais 15 ans. Et surtout, dans ma ville natale, il y avait une grande collection de Sanguine d'Hubert Robert, et ça a fait ma joie quand j'avais 16-17 ans.
Et votre ville natale ?
Valence, dans la Drôme.
Je sentais bien un petit accent chantant quand même.
Et j'aurais fait un autre cheminement. Mais je pense que j'aurais fait quelque chose, même si les prix dans les années 70 avaient été plus importants, parce que j'étais vraiment passionné pour regarder d'abord, et puis ensuite passionné pour acheter dans la mesure de mes moyens.
Alors, l'île Art Fair, c'est la seconde année. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a un marché en province, notamment à Lille, sachant que Lille est proche de Paris, de Bruxelles ou de Londres ?
C'est bien le problème, c'est bien la question. Mais à Lille Art Fair de démontrer le contraire en captant les marchés de proximité. Tout le monde ne va pas à Paris voir les galeries et les vernissages, ne va pas à la FIAC ou à Art Paris. Tout le monde ne va pas à Frise à Londres. Tout le monde ne va pas à Art Bruxelles à Bruxelles. Donc il y a des gens qui sont passionnés, mais qui sont passionnés dans une moindre mesure, peut-être moins que moi, qui voyage beaucoup, qui me sert de l'art contemporain pour circuler en Europe et dans le monde.
C'est un bon alibi de voyage.
Exactement, exactement. Puis d'amitié, parce que souvent on rencontre des amis, soit galéristes, soit artistes, soit collectionneurs. Mais il y a des gens qui voyagent moins parce qu'ils ont d'autres passions, parce qu'ils ont d'autres intérêts, parce qu'ils ont un autre âge. Moi, quand j'avais 30 ans, c'était mon entreprise qui était le centre de tous mes efforts. Et donc, manquer une foire n'était pas une catastrophe. Aujourd'hui, c'est plus embêtant. Mais je pense que l'île à refaire a une fonction, c'est celle d'attirer des amateurs, des regardeurs dans un premier temps, peut-être des acheteurs aux galeries, de concrétiser l'intérêt, mais de montrer à proximité des choses. On pourrait dire, par exemple, que pourquoi faire l'île 2004 ou pourquoi faire l'île 3000, alors que Pompidou, le Musée d'art moderne de la ville de Paris font des expositions merveilleuses. Il faut à un moment donné se porter à la proximité des choses qui peuvent intéresser les gens.
Ça veut dire que c'est toucher un autre public.
C'est toucher un autre public, pas encore tout à fait convaincu, pas tout à fait passionné, et peut-être qu'il deviendra amateur et peut-être collectionneur.
Il y a un côté pédagogique. Alors la foire d'art contemporain de Strasbourg est jumelée en quelque sorte avec l'île Art Fair, dont vous connaissez, j'imagine bien, celle de Strasbourg. Quelles sont les différences entre Strasbourg et Lille?
Oui, alors d'abord les plus anciennes, donc elle a une plus grande notoriété. Et le but de l'île à refaire, c'est de, dans 3, 4 ou 5 ans, de faire une foire comme la foire de Strasbourg. Il y a des différences, il y a des choses qui les font ressembler. Strasbourg, comme Lille, sont à la frontière, et il y a de l'autre côté des deux frontières des grands amateurs. La Flandre, par exemple, est un berceau de collectionneurs émérites. C'est vraiment très étonnant, à la fois par la quantité et par la qualité de leurs acquisitions. Je suis toujours émerveillé quand je les visite. Et donc, voilà une cible pour les faire.
Et comment expliquer cette collectionnite aiguë des Flamands?
Ça, c'est assez mystérieux, parce que si on le savait, on ferait des piqûres en France pour transformer. Mais il y a en Allemagne et il y a en Flandre, pas en Wallonie, c'est très étonnant, en Flandre. En Allemagne et en Flandre, des collectionneurs formidables. En Allemagne en particulier, il y a des gens qui en plus après construisent des fondations pour montrer leur collection. Alors ça, c'est la différence peut-être entre la France et les autres pays, c'est que la réussite en France et la réussite de faire une belle collection n'est pas ressentie comme un élément positif.
C'est peut-être d'ailleurs la réussite tout court, mais bon, ça se discute après.
Après, ça se discute.
Alors vous faites partie du comité consultatif de l'île Art Fair. Comment fonctionne une telle foire?
La foire, il y a un directeur artistique. Malheureusement, je le remplace dans des conditions qui ne sont pas tout à fait positives, puisqu'il n'est pas en bonne santé actuellement, mais je pense que très rapidement, ça ira mieux. Donc, Olivier Billard coordonne tout ce qui est lié à l'image général de la foire, à sa structure artistique, et puis il y a l'organisation des foires de Lille qui commercialise les surfaces.
Alors, est-ce qu'il y a une sélection?
Bien sûr.
Comment elle se fait?
Elle se fait par le directeur artistique.
Donc, comme il n'est pas là, on ne saura pas sur quels critères.
Je ne pourrais pas vous répondre. Mais la sélection, elle est naturelle. Il faut qu'il y ait une ressemblance. Il faut qu'il y ait une homogénéité dans la présentation. Donc, les galeries qui ne sont pas dans la logique artistique telle qu'elle a été conçue ne sont pas contactés, et si ils étaient intéressés, on leur dit simplement c'est que ça ne correspond pas à ce qu'ils font, et c'est positif de leur dire parce que il y a peu de chances qu'il fasse des affaires positives, des affaires qu'il vende des pièces.
Alors, il y a une majorité de galeries françaises, j'imagine. Les galeries internationales, il y en a quand même quelques-unes.
Oui, il y en a quelques-unes, et en particulier, puisque vous allez parler de l'Allemagne, il y a des galeries allemandes, il y a bien sûr des galeries belges, il y a des galeries italiennes, et des galeries qui viennent des Pays-Bas.
Alors, vous avez fait appel à des institutions régionales aussi, comme le FRAC, le Frénois, la Malterie.
Oui, c'est-à-dire que pour compléter, il y a toute une série d'interventions. ESMOD, par exemple, va intervenir pour montrer que l'art contemporain se démultiplie, évidemment, dans le design, dans les meubles, mais aussi dans les vêtements, et qu'on peut retrouver des éléments créatifs dans la mode. Évidemment, le Frénois, je défends le Frénois, étant président des Amis du Frénois, va présenter cinq artistes de la dernière promotion et leur travail et leur vidéo.
Alors, est-ce qu'on va voir une vision classique de l'art contemporain à Lille Art Fair ou une vision avant-gardiste ?
Je pense qu'on va plutôt voir une vision classique. C'est-à-dire que, pour être très clair, c'est pas une foire qui développe un principe extrêmement pointu. Les galeries sont plutôt des galeries généralistes et vont montrer toute forme artistique. Évidemment, il y aura une majorité d'œuvres picturales, de peintures. Peut-être que je vais découvrir enfin l'artiste, le jeune artiste qui va me convaincre que la peinture est un médium particulièrement intéressant. Faut toujours espérer, mais montrera aussi de la photo, montrera aussi des installations, montrera aussi de la vidéo. Mais c'est une foire tout de même classique, et les gens qui viendront n'ont pas à avoir peur de ne pas percevoir ou d'être choqués par ce qu'on va leur montrer.
Quel conseil vous donneriez à un amateur pour faire son premier achat ?
Alors, si c'est un premier achat, je dirais pas de calcul, de l'émotion. Hein, de l'émotion, c'est un premier achat. Puisque là, il n'y a pas à savoir, c'est si la première pièce va avec la deuxième, ou la deuxième va avec la première, ou la 60e va avec la 59e, et s'il y a une harmonie, s'il y a une structure dans la collection. Si c'est un premier achat, il faut acheter ce dont on a envie, et si c'est un peu trop cher, négocier, c'est encore un des lieux où on peut négocier. Donc je conseille à tous les acheteurs potentiels de discuter des prix, et puis aussi de demander de payer en plusieurs fois. C'est aussi une solution, c'est ce que j'avais fait et ce que je continue à faire d'ailleurs. Quand c'est des pièces trop chères, on peut avec la galerie obtenir 2 mois, 3 mois ou 4 mois pour payer. Et donc, rechercher l'œuvre que l'on a envie. Plutôt rechercher une œuvre plus grande que plus petite, quitte à la payer plus cher, mais en demandant des réductions ou des délais de paiement, parce que quand on l'aura, après, on aura dans quelques années satisfaction d'avoir une œuvre plus importante d'un artiste qu'une œuvre mineure.
Eh bien, maintenant, on a le mode d'emploi pour visiter Lille Art Fair et repartir peut-être avec son premier achat sous le bras. Michel Poitevin, merci. Lille Art Fair, c'est du 3 au 6 avril. Et puis, rendez-vous en 2010 pour la prochaine édition de Lille Art Fair.
Merci.